C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Le Canada, comme d'autres juridictions, les États-Unis, l'Union européenne, a interdit de vol des avions qui proviennent d'Afrique du Sud, de 7 pays du sud de l'Afrique, dont l'Afrique du Sud. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un nouveau variant d'intérêt, comme on dit, qui est assez inquiétant, le variant Omicron. Ça a été détecté en Afrique du Sud et on va parler de tout ça immédiatement avec Dr. Alex Carignan. Il est microbiologiste infectiologue au CIUS de l'Estrie, CIUS, et prof à l'Université de Sherbrooke. Salut Alex.
Salut Patrick.
D'abord, on va se faire un variant 101, OK? Question de rappeler les bases. C'est quoi un variant?
Un variant, en fait, c'est un virus qui a des mutations, qui mute par rapport à un virus, disons, d'origine. Donc, un virus, c'est normal, je vous dirais que c'est ce qu'on voit, un virus, c'est dans sa nature même de muter. Par contre, bon, il y a certains types de virus qui vont muter davantage que d'autres. Donc, ce qui va amener, en fait, ce qui peut changer ses caractéristiques. Dans le cas qui nous intéresse, bon, ça pourrait changer, entre autres, bon, la capacité, disons, des vaccins à prévenir ces infections avec un variant. Ça pourrait aussi amener des changements dans la transmissibilité d'un virus. Donc, c'est essentiellement les variants. C'est bon qu'on en parle parce que depuis plusieurs mois, on parle souvent des variants, mais souvent, effectivement, c'est une question qui revient. Faut revenir à la base parfois.
OK. Et ce variant-là, Alex, s'appelle Omicron. Pourquoi il cause des inquiétudes particulières?
Ben, pour différentes raisons. D'abord, l'endroit où il a émergé, en fait, une province d'Afrique du Sud, c'est que très, très rapidement, il y a eu une dissémination de ce variant-là. Puis, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a remplacé, il a supplanté le variant Delta. Puis, on le sait, le variant Delta, déjà, c'est un virus qui se transmet très bien. Et depuis quelques mois, bon, parfois, il y avait des variants dont on parlait, mais ils n'ont jamais eu la capacité, justement, de supplanter. Donc, il semble avoir un avantage de transmission par rapport au variant Delta. C'est encore à démontrer, mais quand même. Par ailleurs, il y a aussi plusieurs mutations, certaines mutations qui laisseraient penser qu'il pourrait se transmettre plus facilement et aussi certaines mutations qui pourraient amener une diminution de l'efficacité des vaccins. Ceci étant dit, pour l'instant, il n'y a rien de ça qui est prouvé. Et quand même, on doit dire que malgré tous les variants qu'on a traversés depuis le début de la pandémie, en fait, nos vaccins demeurent quand même très, très efficaces. Donc, on espère que ça va se maintenir, mais ça justifie certainement qu'on s'y intéresse.
Mais si je comprends bien, Alex, là, présentement, on est dans les spéculations quant à sa transmissibilité, là. On n'est pas sûr qu'il soit plus contagieux que les autres variants.
Non, mais ce qui fait qu'on s'y intéresse, c'est qu'effectivement, comme je disais, il a pris la place dans une région. Il a pris la place du variant Delta, ce que les autres variants n'étaient pas capables de faire jusqu'ici. Et aussi, bon, sans entrer dans le détail moléculaire, il y a vraiment de nombreuses mutations par rapport à d'autres variants qui pourraient, disons, s'avérer inquiétantes. Mais là, maintenant, il y a du travail en laboratoire, il y a du travail clinique pour déterminer est-ce que, oui, il se transmet réellement plus facilement, est-ce qu'il peut échapper à nos anticorps, est-ce qu'on peut se réinfecter. Puis ça aussi, c'est une des préoccupations parce qu'il pourrait avoir un risque de réinfection qui est accru. Jusqu'ici, quand même, lorsqu'on fait l'infection, on est quand même bien protégé, du moins pour quelques mois. Mais là, ça, il y a des interrogations, puis il pourrait y avoir davantage de risques de réinfection lorsqu'on a déjà fait l'infection avec, par exemple, le variant Delta. On pourrait se réinfecter avec ce variant-là.
Évidemment, la crainte, c'est toujours qu'un variant émerge et qu'il soit capable de percer les défenses vaccinales, là, disons, encore plus que la minorité de cas qu'on voit présentement. Qu'est-ce qu'on sait? Les variants qu'on connaît n'ont pas réussi à casser les vaccins présentement, là.
Non. Bon, depuis le départ, on voit une efficacité, je dirais, autour de 90, parfois même 95% d'efficacité pour prévenir l'infection. Ça s'est demeuré ça. Même, disons, le Delta, qui est le pire, si on peut dire, bon, on est tout juste sous la barre du 90%. Donc, effectivement, jusqu'ici, ça résiste très, très bien, malgré plusieurs mutations qui sont accumulées. Et on espère que ça va être le cas encore une fois.
OK, Alex, c'est l'occasion peut-être de parler de la troisième dose. On en parle de plus en plus, là. Je vois des spécialistes comme Dr. André Veillette, qui est immunologiste, qui plaide pour une troisième dose rapide. et en commençant par les travailleurs de la santé. Là, il y a certains groupes qui vont l'avoir, la troisième dose, en fait, qui ont accès. Tu es sur le comité d'immunisation du Québec. Où loges-tu sur l'importance d'élargir la troisième dose à peu près tout le monde?
Ben, je suis content, en fait, qu'on en parle parce qu'il a circulé peut-être des informations ambiguës là-dessus. C'est vrai, plusieurs personnes se questionnent avec raison sur la nécessité de troisième dose, entre autres chez nos travailleurs de la santé qui sont encore au front. Ce qui amène ça, en fait, c'est qu'on sait que plusieurs endroits dans le monde, on a vu une baisse de l'efficacité au fil des mois des vaccins. On sait aussi que lorsqu'on donne cette troisième dose-là, ça restaure, en quelque sorte, disons, ça ramène l'immunité au niveau qu'elle était au départ. Donc ça, c'est des données qui sont intéressantes, puis en fait, qui encouragent les troisièmes doses, comme à plusieurs endroits, c'est donné. La particularité, c'est que les endroits où on a observé quand même une certaine baisse, en fait, c'est qu'on utilisait les protocoles standards. Entre autres, aux États-Unis, en Israël, on utilisait l'intervalle court. L'intervalle long, allongé, qui était utilisé majoritairement au Québec, on sait maintenant que, bon, ça donne peut-être une légère protection supérieure, puis ça pourrait même, en fait, il y a des données, bon, qui n'ont pas été encore diffusées, qui nous ont été montrées, qui montrent que ça pourrait amener aussi une protection, disons, plus longue, qui persisterait plus longtemps. Donc là, évidemment, puis là, on a des données cliniques aussi. On a la chance quand même d'avoir un excellent système de surveillance de l'efficacité vaccinale en temps réel au Québec qui nous montre que malgré qu'on est à plusieurs mois, là, jusqu'à 6-7 mois de suivi pour les travailleurs de la santé, entre autres, on a une étude particulièrement pour les travailleurs de la santé, il n'y a pas du tout de baisse. Ceci étant dit, ça veut pas dire qu'il faut attendre qu'il y ait une baisse. Puis je pense que le fait que les gens aient mentionné qu'il n'y a pas de baisse, c'est très encourageant. Jusqu'ici, il était interprété comme le fait que le comité d'immunisation balayait du revers de la main les troisièmes doses, ce qui n'est pas du tout le cas. Pour moi, c'est assez clair que puis moi-même, je suis un travailleur de la santé, je veux pas attendre qu'on voit une baisse dans l'efficacité, que ça s'effondre, puis là, qu'on réagisse. Donc là, déjà, on discute, en fait, les troisièmes doses dans différents groupes, dont les travailleurs de la santé. Il y a des travaux en cours, puis évidemment, on veut pas que ça prenne trop de temps. Évidemment, c'est toujours un peu plus long faire des recommandations ministérielles que régler des problèmes sur Twitter, mais c'est en cours, puis évidemment, puis c'est une question qui est sur la table actuellement, puis je pense que inévitablement, on va y venir, puis je pense qu'on a un devoir envers nos travailleurs de la santé. Lors de la première vague, ils ont été souvent échaudés, entre autres avec les pénuries de
masques, etc.
Fait que je pense qu'on a vraiment un devoir. Bon, jusqu'ici, avec le programme vaccinal, on les a très bien protégés, puis il faut que ça se poursuive ainsi. Là.
Quelqu'un m'écrit, puis je sens un peu de sarcasme, là, les doses 4, 5 et 6 sont à venir. Est-ce que c'est envisageable qu'il va falloir aller au-delà de 3 doses? Et si oui, est-ce que c'est atypique là, dans l'histoire des vaccins?
Bien, il y a certains vaccins, effectivement, qui ont des rappels annuels. On pense à l'influenza. Il y a certains vaccins, mais ça veut pas dire parce qu'on donne une troisième dose que c'est nécessairement, en fait, qu'il va y en avoir à l'infini. Il y a aussi plusieurs exemples de vaccins, ce qu'on appelle des 2+1. Il y en a plusieurs exemples. On donne, par exemple, 2 vaccins au départ, on donne un rappel quelques mois plus tard, et ça stabilise notre réponse. J'ai pas de boule de cristal, je peux pas le dire. Est-ce que ça va prendre des rappels annuels? Est-ce que là, on parle de nouveaux variants, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense qu'il faut évoluer avec l'état des connaissances scientifiques. Si c'est ce que ça prend, on y viendra, mais moi, je pense qu'on y va une étape à la fois. Là, actuellement, comme je disais, on a 2 doses qui ont été données au Québec. On a encore une très, très bonne protection. Puis même si je regarde dans la population générale, ce matin, je calculais dans ma région, mon Estrie, ma belle Estrie, on a encore une efficacité de 85% de notre vaccin. Donc ça, c'est pour toute la population at large. Fait que les vaccins ils fonctionnent encore très bien. Est-ce qu'on peut faire du fine-tuning? Certainement. Puis je pense que dans les travailleurs de la santé, on est là-dedans. Là. Oui, on se pose la question. Ça va vraisemblablement venir, même si on a quand même une protection qui est quand même intéressante.
Toujours très clair. Bonne fin de semaine, Alex. Merci beaucoup.
Merci.
Bye. Salut, à la prochaine. C'était Alex Carignan, microbiologiste, infectiologue.
Patrick Lagacé en accéléré.
Juste revenir un peu sur ce qu'on a appris aujourd'hui. Ça se précipite un peu à propos du Omicron. Omicron, c'est le nouveau variant qui nous vient d'Afrique du Sud. Au Québec, le même jour, on a dépassé le cap des 1000 cas aujourd'hui. Au Québec, ça monte lentement, mais sûrement. Évidemment, c'est symbolique, le cap des 1000 cas quotidiens. Là. La bonne nouvelle, c'est que les hospitalisations ne montent pas de façon dramatique, mais on le sait, bon, la capacité hospitalière n'est pas élastique, c'est pas optimal. Il y a plusieurs infirmières depuis le début de la pandémie, là, des milliers qui ont quitté le réseau. Donc, on n'a pas la même capacité qu'au début de la pandémie, par exemple. Et le jour où on dépasse le cap des 1000 cas au Québec, ben, on apprend un nouveau mot là dans le dictionnaire pandémique, Omicron. Canada a stoppé ses vols de 7 pays en provenance de 7 pays. C'est pas vrai. Pas les vols, a stoppé l'afflux de gens qui auraient visité 7 pays dans le sud de l'Afrique. L'Europe fait la même chose, les Américains aussi. Bon, ce variant-là, il est inquiétant, mais les inquiétudes sont juste ça, je veux le rappeler à tout le monde, là, des inquiétudes, parce que pour l'instant, on ignore beaucoup de choses de ce variant-là. C'est un variant d'intérêt. On ignore s'il va réussir à déjouer la couverture vaccinale. J'ai fait une entrevue un peu plus tôt avec Alex Carignan, microbiologiste infectiologue, et lui, il l'a rappelé. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Je vous invite à l'écouter.
Il y a aussi plusieurs mutations, certaines mutations qui laisseraient penser qu'il pourrait se transmettre plus facilement, et aussi certaines mutations qui pourraient amener une diminution de l'efficacité des vaccins. Ceci étant dit, pour l'instant, il n'y a rien de ça qui est prouvé. Et quand même, on doit dire que malgré tous les variants qu'on a traversés depuis le début de la pandémie, en fait, nos vaccins demeurent quand même très, très efficaces.
Donc, les vaccins demeurent efficaces. Alex Carignan l'a rappelé. Moi, ce que je retiens des propos d'Alex Carignan et d'autres experts scientifiques qui se sont prononcés aujourd'hui, c'est on respire par l'année, on se calme, on attend les données. Et aussi, on se rappelle d'une chose, accrochons-nous à ça. Les vaccins fonctionnent. Les vaccins, jusqu'à maintenant, n'ont pas rencontré de variants qui ont percé complètement les défenses. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et aussi, en plus de respirer par le nez, ben, on remercie les scientifiques pour les vaccins, justement. Si on n'en avait pas, quand on voit les chiffres, on serait vraiment dans le pétrin. Nos hôpitaux seraient vraiment débordés. Donc, les cas montent. Et là, ça pose aussi la question des troisièmes doses qui commencent à se donner pour certains groupes ciblés, comme les 70 ans et plus, les immunosupprimés, ceux qui ont le AstraZeneca double, comme moi, par exemple, comme Catherine. J'ai mon rendez-vous personnellement pour ma troisième dose dimanche matin. Il y a Dr. André Veillette qui, sur Twitter, arrête pas de le répéter. Il regarde les données de pays où on donne la troisième dose. Il semble qu'après une troisième dose, et c'est ce que disait Alex Carignan aussi, les anticorps font un bond spectaculaire. Et il y a des experts qui conseillent le gouvernement, sont en train d'étudier la question. Et moi, j'espère qu'on va tirer ça au clair rapidement. S'il faut donner des troisièmes doses, ben les données sont disponibles. Je pense pas qu'il faille attendre que les cas commencent à monter encore plus que 1000 cas par jour. Donc, juste dire aussi là-dessus que une de mes craintes personnellement là, c'est que le système bureaucratique a accouché d'un beau succès qui est cette campagne de vaccination au Québec. Mais quand même, c'est le même système bureaucratique qui est un peu beaucoup obsédé par les petites cases. Rappelez-vous, au début de la campagne de vaccination, ça allait bien. Mais quand on arrivait vers la fin de certains groupes d'âge, les centres de vaccination étaient souvent vides et la machine s'entêtait à pas accélérer, disons, le passage au groupe d'âge inférieur pour qu'on accélère la vaccination. J'ai un peu peur de ça pour ce qui est des troisièmes doses. Une autre affaire que nous montre toute l'histoire du variant Omicron, c'est qu'on vit sur une planète qui est interconnectée. Il va falloir qu'on se rende compte que même si dans les pays privilégiés, on a des bonnes couvertures vaccinales, ben s'il y a des poches, s'il y a des zones de population dans le monde qui sont pas vaccinées, qui sont pas suffisamment vaccinées, ben ça constitue ça des sortes de pataugeoires pour que les variants puissent grandir, muter et venir hanter toute la planète, même les régions qui sont très bien vaccinées. J'ai parlé un peu plus tôt de ça juste avant l'émission. Là, j'ai fait une entrevue avec François Audet de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Voici ce qu'il avait à dire.
Ce que ça nous dit, c'est que ce soit ce variant-là ou un autre dans deux semaines, c'est qu'actuellement, tout n'est pas fait pour qu'il y ait une vaccination universelle pour toute la planète. Et tant aussi longtemps que tout le monde, ou en tout cas une grande majorité de la planète, n'est pas vacciné, n'est pas protégé, c'est une journée de plus à chaque fois que le virus mute et risque très probablement de nous revenir en pleine face et qu'on revoit le même film depuis 2 ans qu'on est en train de jouer, avec évidemment les crises socio-économiques qu'on a vues ces 2 dernières années. Alors, si on veut effectivement se sortir de cette crise-là et éviter un scénario catastrophe, un vrai de vrai, c'est-à-dire de revivre ça encore, il faut absolument que le Canada et tous les partenaires qui en ont les moyens mettent tout en œuvre pour qu'il y ait une vaccination mondiale et qu'on lutte contre cette inéquité vaccinale.
C'est un défi politique, hein, parce que les États vont d'abord vouloir protéger leurs citoyens, mais il va falloir qu'on comprenne que si les citoyens d'États moins bien nantis ne sont pas capables de vacciner leurs citoyens, ça va finir par nuire à tout le monde. Il y a un défi aussi, je dirais, logistique, parce que, vous le savez, les vaccins doivent être conservés à des températures, disons, très, très basses. Il y a des endroits dans le monde où il y a de l'électricité quelques heures par jour. Je parlais il y a quelque temps avec Dr. Richard Marchand de l'Institut de cardiologie et microbiologiste infectiologue, lui aussi. Ce qu'il me disait, c'est que tant que les vaccins ne seront que conservables à des températures très, très basses, ça va être dur de vacciner une bonne partie de la planète. Il y a un espoir, peut-être un jour, sur un vaccin qui se donnerait de façon orale, qui n'a pas besoin d'être congelé. Mais bref, il y a plusieurs défis là-dessus. Dernier point que je vais aborder en cette journée où on a franchi le cap des 1000 cas quotidiens au Québec. Mais il y a quelque temps, là, je pense que c'était il y a 2 semaines, je vous ai dit que je me gardais personnellement une sorte d'espace mental pour faire face à une réalité qui est un peu déplaisante. Ça se peut qu'on doive peut-être resserrer les mesures sanitaires. Je pense pas qu'on va revivre avec un confinement, avec un couvre-feu. En tout cas, j'espère que non. Mais je pense que c'est important que chacun de nous, individuellement, dans notre fort intérieur, on se souvienne que le virus se fiche de pas mal d'affaires humaines comme notre optimisme, comme notre ras-le-bol, comme le fait aussi que Noël s'en vienne dans juste un mois. Personnellement, c'est ce que je fais, me dis que tout n'est pas fini. J'espère que ça va finir un jour, parce que si on doit reculer, je vais tomber de haut. Donc, les nouvelles sur le virus Omicron venu d'Afrique du Sud, moi, ça me rappelle ça. Faut être prudent collectivement, c'est vrai, puis individuellement, gardons-nous un espace mental pour se dire que c'est pas fini. On lâche pas. Vous le savez, Vendredi fou, il y a des soldes un peu partout. On veut nous faire dépenser, on veut nous faire acheter des trucs. Bien, il y a une commerçante de Montréal qui a décidé d'aller complètement à l'encontre de l'esprit du Vendredi fou. Il s'agit de Annie Martel. Elle est propriétaire de Terre à soie, qui est un magasin général écologique de quartier dans Hochelaga-Tétroville-Prévost. Donc, Mme Martel est au bout du fil. Bonjour!
Bonjour!
Écoutez, Vendredi fou, pour vous, c'est vendredi de congé.
C'est vendredi d'arrêt, en fait, de pause. On n'était pas vraiment en congé, mais on n'était pas ouvert aux clients.
C'est vraiment un geste de, je dirais, d'affirmation, un geste militant que vous avez décidé de faire, Mme Martel.
C'est clairement pas un geste de réalité économique, mais c'était vraiment un geste de ce qu'on veut, c'est ouvrir le dialogue. En fait, mon objectif, c'était de faire parler de la surconsommation, mais d'une autre façon. Puis je pense qu'on a réussi parce que, en tout cas, ça a intéressé vraiment beaucoup de monde, beaucoup de nos clients. On voulait juste, c'est ça, on voulait sonner un peu l'alarme de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'entendais MC tantôt qui disait à quel point il n'en pouvait plus d'en entendre parler. Ben nous autres aussi, mais nous, on est de l'autre côté, tu sais. On n'entend pas juste la pub, nous, on a la pression d'être obligés de participer à ce cirque-là, puis on n'en a pas les moyens.
Par curiosité, Annie Martel, qu'est-ce que vous vendez dans votre commerce Terre à soie?
Nous, on vend des produits de la vie quotidienne, mais version ayant moins d'impact sur la planète. Donc, on vend autant du savon que des produits ménagers, que des cosmétiques, que des cadeaux. On vend plein de trucs, mais 95% de nos fournisseurs sont des petites PME québécoises.
OK. Et là, bon, mais pour vous, si vous étiez resté ouverte le vendredi, écoutez, vous êtes, je veux pas dire que vous êtes en marge de l'économie de consommation, là, c'est pas ça du tout que je veux dire, là, mais quand même, vous vendez des produits éco-responsables, vous êtes pas dans l'opulence des produits de consommation, vous auriez très bien pu être cohérente avec vos valeurs puis rester ouverte aujourd'hui.
Ben c'est ce qu'on a fait. Moi, ça fait 13 ans que je suis en affaires. Ça fait 13 ans qu'on était... Ben il y a 13 ans, on n'avait pas le vendredi fou, mais dans les dernières années, on est resté ouvert le vendredi. Mais on est un commerce de conviction à la base, puis on dirait que c'était pas assez fort. Moi, pour vrai, ça vient personnellement me chercher. J'ai amené ça en réunion d'équipe en disant, vous en penseriez quoi si... On lançait, mais si on n'était pas ouvert, puis la réaction de l'équipe, pour vrai, on est tous, et c'est sûr que les gens qui travaillent pour moi, c'est tous des gens qui partagent nos valeurs d'entreprise, mais juste les sourires qu'il y avait là, puis la fierté aussi de porter des valeurs plus fortement, en fait, parce qu'on peut dire quelque chose, mais quand on le fait, ça a une portée encore plus forte.
Donc, Annie Martel, vos employés, quoi, ils ont accepté de ne pas être payés aujourd'hui parce que les commerces sont fermés?
Bien, en fait, ils n'ont pas été payés parce tout le monde est rentré quand même. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est des choses qu'on n'a jamais le temps de faire. Fait qu'on a décoré la boutique, on a pris nos photos d'équipe, on a passé du temps ensemble. Fait qu'il n'y a personne qui était perdant. Peut-être, je vous en reparlerai dans une semaine, moi, je suis persuadée que la réaction de la clientèle, puis même de gens qui ne sont pas nos clients, qui ont entendu parler de ce... Là, je dis mouvement, pour l'instant, c'est un micro-mouvement, mais la réaction des gens nous laisse penser que les clients ne nous ont pas abandonnés, ils vont juste reporter des achats qui, de toute façon, qui a décidé que vendredi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut tout acheter, là.
Quand il faut recommencer l'exercice dans exactement un mois, à peu près, là.
Effectivement. On parle du Boxing Day, j'imagine.
Oui,
mais c'est dicté par... en fait, au début, ce mouvement-là, on le regardait arriver des États-Unis avec un sourire en coin en disant « Bouf, ça ne nous atteindra jamais ». Mais veux pas, quand tu es ouvert le vendredi, il y a toujours des gens qui vont te demander « Mais c'est quoi ton rabais ?» Mais moi, ce que j'offre, je peux pas faire une guerre de prix avec des grandes surfaces. Ce que j'offre, c'est du service à la clientèle, du service conseil. Mais ça, j'ai pas trouvé comment mettre ça en rabais.
Très intéressant. Ben merci beaucoup, Annie Martel. Puis écoutez, bonne fin de Black Friday écologique et non consumériste, je dirais ça comme ça.
Merci.
Salut, à la prochaine. C'était Annie Martel, propriétaire de Terre à Soie, d'un magasin général écologique qui a 3 boutiques là, à Hochelaga, Tétroville, Prévost. Et là, écoutez, il y a quelqu'un qui m'écrit. Je trouve ridicule de fermer quand ça va rien changer. C'est le fun de magasiner dans cette folie. Tant pis pour elle. Ben, écoutez, tout le monde gère son portefeuille puis son crédit comme il l'entend. Puis si ça vous amuse, si vous trouvez ça, comment c'est le fun de magasiner dans cette folie? Allez-y. Moi, je mets pas cette femme-là en onde pour faire la leçon à qui que ce soit. C'est un autre point de vue. Je vois ça comme l'occasion de réfléchir. Dans les fêtes religieuses, on réfléchit à nos péchés, puis peut-être que dans les fêtes de magasinage, on devrait dépenser justement à nos péchés de magasinage. On va pas faire une longue histoire, mais j'ai fait des rénos à maison là dans les derniers mois, puis... J'ai dû me départir de plein d'affaires. J'ai fait mes boîtes, je suis sorti de la maison, etc. Écoutez, le nombre de cossins qu'on achète, le nombre de patentes à gosses qu'on a achetées, le nombre d'objets qu'on pensait qu'ils allaient être utiles dans nos vies, dans notre maison, puis tu regardes, puis t'es vois plus. Écoutez, en mettant cette femme-là, Annie Martel, en nombre, moi, c'est ça qui m'intéressait là-dedans. Je suis toujours fasciné quand, le 26 décembre, puis écoutez, je suis pas mieux qu'un autre, je vous le dis, je suis pas mieux qu'un autre. Je consomme, je dépense, parfait, là, tu sais. Mais je suis toujours fasciné le 26 décembre quand il y a des bouchons autour des centres d'achat. À un moment donné, je m'en allais dans la famille 26, puis Christy, c'était bouché sur la 40. Mais je me disais, qu'est-ce qui se passe? C'était pour rentrer au marché central. Il y avait des fils et des fils et des fils. Écoutez, je juge personne, mais moi, le 26, j'aime ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a personne qui t'attend. Si tu veux aller voir la famille, tu y vas. Écoutez, personnellement, la dernière affaire que je voudrais, là, c'est d'aller magasiner un 26 décembre, me pitcher avec tout le monde. On sort d'un sprint avant Noël où il faut dépenser, acheter des cossins. Tu recommences le 26. l'entrevue qu'Annie Martel, c'était juste ça. Pensons un peu, on a-tu besoin de tout ça? Je reprends ce que Pierre-Yves McSween dit souvent, on en a-tu vraiment besoin? Non, je vous le dis, puisque je suis frappé, j'ai vidé la maison. Écoutez, j'aurais probablement pu nourrir un village en Afrique avec tout ce que j'ai acheté dans les 10 dernières années qui servait à strictement rien. Je me suis emballé pour des patentes que j'ai plus jamais utilisées. Les vêtements, vaisselle, etc. Fait que, bref,
juste en bibelot.
C'était ça la réflexion. Juste en bibelot.
Juste en bibelot. Pourquoi on a... Moi, je regarde les affaires, ça accumule. Pourquoi j'ai ça? Je sers à rien, cette affaire-là.
Patrick Lagacé, en accéléré.
On a un cocktail météo un peu déprimant là, selon les régions dans le sud du Québec qui s'en vient. Là, ça va commencer dans les prochaines heures. Ça va se poursuivre demain. Mais bref, c'est l'automne. C'est l'automne et c'est froid et venteux. On va parler de tout ça avec Gilles Brien, météorologue. Salut Gilles!
Bonjour Patrick.
Donc, ça va être frisquet et ça va être un peu mouillé prochainement.
Ben, bouillé surtout pour l'instant, avec un mélange de neige, de verglas selon les régions. Les quantités les plus grandes, là, c'est sur au Saguenay présentement, là, 15 à 20 cm prévus. Peut-être dans le parc des Laurentides, on va sûrement toucher peut-être le 20-25 cm. Le problème, c'est les températures près de 1 degré ou moins 1. C'est très stable, là, de la Gaspésie jusqu'à l'Outaouais. Donc, c'est difficile à mesurer au sol. C'est fondant des endroits, pas d'autres, à d'autres places. Bon, on a eu un petit peu de verglas ce matin. Mais là, présentement, Dorval, c'est zéro. Donc, il peut y avoir des petites plaques de glace. Là, soyez prudents, surtout en fin d'après-midi, parce que l'air froid cogne à la porte. Là. Et demain et dimanche, ça va être très froid. Oubliez les températures au-dessus de zéro là, jusqu'à vendredi prochain.
OK, donc, faut se préparer. Bonne chance à tous, tous ceux qui n'ont pas leurs pneus d'hiver. Gilles, je veux aussi parler de ce qui se passe là aux deux extrémités du Canada. C'est-à-dire la Colombie-Britannique, on sait qu'il y a eu des pluies diluviennes là, il y a une semaine et quelques, et ça a causé des glissements de terrain. Mais Terre-Neuve aussi est frappée par des tempêtes là, qu'on pourrait juger comme atypiques.
Ah oui, là, c'est la saison des tempêtes maritimes dans l'est du pays, parce qu'on commence à avoir un contraste assez grand là avec les masses d'air de l'Arctique, parce que l'air froid, présentement, on a moins 8 à Montréal, mais on a eu des moins 10, moins 15. Là. Et si vous allez au Labrador, là, pas au Basque, présentement, en fait, hier, il y a eu un record de 15 degrés, parce que vous aviez eu cette dépression-là qui a amené beaucoup de pluie, des vents très violents aussi, mais de l'air chaud, hein, devant une dépression, c'est des vents du sud, et l'air le chaud a grimpé jusqu'à Terre-Neuve. C'est très intense comme système là, quand on a en présence là, deux masses d'air là, très, très différentes. C'est la machine là, pour produire des grosses tempêtes maritimes. Et là, lundi prochain, une seconde tempête va toucher les îles de la Madeleine, le secteur de Terre-Neuve aussi, l'estuaire du Saint-Laurent, avec sûrement 70 à 100 mm de pluie. Des précipitations d'un mois là, en équivalent pour peut-être deux jours. Mais comme tu l'as dit, Patrick, c'est dans l'ouest là, du pays. Là, ça, vraiment, c'est inquiétant. À Vancouver, là, la quantité de pluie qui tombe en novembre, là, normalement, c'est 142 mm. On s'entend là-dessus. Mm-hmm. Bon, 140, c'est plus vieux parce que dans l'ouest, c'est à l'automne qu'ils ont des quantités très fortes de pluie. Ici, au Québec, c'est en été. Mais là-bas, 140, ben là, on est rendu à 245 mm. Et ce qui s'en vient, là, du samedi, dimanche, on peut rajouter 100 à 120 mm de pluie. Donc, on est rendu à deux, trois fois la quantité normale qui tombe dans le mois. Ça, c'est vraiment exceptionnel.
Ça, est-ce que c'est relié au changement climatique ou c'est quelque chose qui arrive à chaque intervalle en Colombie-Britannique?
Bon, comme j'ai dit, en automne, on a les tempêtes plus vigoureuses dans l'est et dans l'ouest du pays, mais là que les changements climatiques, les tempêtes sont pas mal plus intenses, les dépressions sont beaucoup plus creuses et les poussées d'air chaud par les systèmes de haute pression, de basse pression sont beaucoup plus agressives, je dirais, là, en intensité, en sévérité de l'air chaud qui monte jusqu'à Terre-Neuve à 15 degrés, là, comme on a vu hier, là, c'est un record de à peu près 90 ans. Ce qui est d'inquiétant, c'est que les records, c'est pas franchi d'un degré ou 10 mm, là, c'est le double ou même parfois le triple. On l'a vu cet été à Lytton, en Colombie-Britannique. La température la plus chaude jamais relevée au Canada, c'était 46. Et là, du jour au lendemain, on est rendu à 50 degrés. C'est ça qui a été observé à Lytton. 48 heures plus tard, bien, le village était dévasté par un incendie de forêt. Alors oui, c'est inquiétant parce que le changement climatique va si on veut, exaspérer là, le mécanisme météo là, de la nature, l'équilibre un peu beaucoup fragile, et pousser d'un sens ou de l'autre. C'est comme... Je prendrais l'image d'une équipe de tir à la soupe. Là. Vous avez deux équipes qui tirent. D'un bord, vous avez des canicules, de l'air très chaud. De l'autre bord, c'est de la pluie abondante, la quantité de vapeur d'eau qu'on a dans l'air. Quand les deux équipes sont très fortes de plus en plus, ben attention, quand la corde, il y a du lousse dedans, ben attendez-vous à ce que ça cogne fort. Puis c'est ce que se produit. Là, on voit des l'intensité des systèmes, la quantité de précipitations dépasser des seuils vraiment... je dirais gérable là, pour un météorologue.
Les images sont impressionnantes pour ce qui est de la Colombie-Britannique, Gilles. Tu as vu les mêmes choses que moi, là. Les auditeurs l'ont sûrement vu aussi. J'ai des coulées de boue, des glissements de terrain qui ont cassé des routes en deux et qui ont isolé des parties de la province du reste du monde.
Ah oui, les agriculteurs là, qui traînent leur bétail là, en tirant là, à partir d'un skidoo, une moto marine, je dirais, ça frappe l'imaginaire. Là. Ça représente vraiment là, le changement climatique. Au niveau des pays là, nordiques, comme le Québec, le Canada, les régions du nord de l'Europe, on est beaucoup plus touchés par le réchauffement global. Tout le monde entend parler là, du 1,5 degré qu'on ne doit pas dépasser. Ça, il faut se rappeler que c'est la température moyenne du globe. Ici, au Québec, on l'a vraiment dépassé le 1,5. On est probablement à 2 ou 3 degrés au-dessus des températures qu'on avait au début du siècle dernier. Un degré, ça change pas le monde, sauf que, attention.
Merci, Gilles. Bonne fin de semaine à toi.
Ben oui, au revoir.
Salut, c'était Gilles Brien, météorologue, donc de la météo qui va être mouillée et peut-être un peu imprévisible dans les régions du sud du Québec, dont la région de Montréal. Puis bon, vous voyez là, aux extrêmes ouest et est du pays, ben le diable est un peu au vache. Il s'appelle Jean-Patrick Toussaint, il est chroniqueur au magazine Québec Science et docteur en sciences de l'environnement. Et dans l'édition courante du magazine, docteur Toussaint signe une très belle lettre à son fils. Ça porte sur l'environnement. J'en cite un extrait. « La promesse qui m'anime, fiston, celle de toujours poursuivre mes efforts afin de faire œuvre utile quant aux enjeux environnementaux et climatiques. Et si je suis si confiant en ma capacité à l'honorer, c'est que cette promesse repose sur de l'amour inconditionnel que je te porte. » Jean-Patrick Toussaint, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cette lettre-là à votre fils?
Oui, merci tout d'abord de l'invitation. En fait, les fins d'année, c'est toujours une occasion de faire des bilans. Puis donc, comme j'œuvre dans le domaine dans l'environnement, j'y ai pas échappé. Et ça a été, on sait tous et toutes, une année assez rocambolesque à ce niveau-là. Mm-hmm. Et donc, je voulais faire part de ça tout simplement, puis de réitérer mon engagement pour lui, d'autant plus qu'il va fêter ses 10 ans dans quelques semaines. Donc, je pense que c'est un moment opportun pour moi de souligner ceci.
Vous écrivez aussi dans la lettre, tu m'entends régulièrement parler d'environnement à la maison, même si, à ton grand dame, mes propos prennent souvent l'allure de sermons.
Oui.
Comment on peut parler d'environnement aux enfants ou même pas aux enfants sans avoir l'air des sermonnés?
Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse toute faite. Je pense qu'ils sont déjà très sensibilisés déjà à l'école. C'est un enjeu qui est discuté en classe, hein, souvent. Mm. Donc, il va me le ramener à la maison. Puis, il me voit œuvrer dans le domaine, que ce soit par mes écrits à Québec Science ou ailleurs. Donc, je me pose toujours cette question-là. Je suis le fatigant qui veut dire, est-ce qu'on... Un peu à la Yves McSween, est-ce qu'on en a vraiment besoin? donc, quand c'est le temps de consommation. Mais je ne veux pas non plus que ça vienne son fardeau. Hein. Puis c'est ça aussi que j'essaie de transmettre dans ma lettre, c'est que c'est le fardeau de sa génération, mais c'est notre responsabilité à la mienne, puis à celles qui nous ont précédés certainement. Donc c'est pas à lui de faire tout le travail, mais bien de lui rappeler que j'essaie de faire le travail aussi à sa place.
On est en plein Black Friday, vendredi fou. on nous incite à consommer, à dépenser, puis on sait qu'une partie de l'économie repose là-dessus. Qu'est-ce qui vous donne... Quel regard vous portez sur la consommation puis les jeunes qui ont l'âge de votre fils? Est-ce qu'ils vont vraiment être moins accros à acheter des patentes que notre génération l'a été?
C'est une autre bonne question. Je peux pas dire que j'ai une boule de cristal. Ce que je peux dire, par contre, c'est que je vais prendre l'exemple de la voiture. Je pense que, sans avoir les chiffres sous les yeux, je pense que de plus en plus de jeunes repoussent l'âge vers lequel ils vont prendre leur permis de conduire parce qu'ils ne voient pas le besoin nécessairement d'avoir une voiture de conduire, certainement quand ils vivent dans des grandes villes. Je pense donc on peut y dresser peut-être un parallèle qu'il va y avoir probablement un virage quant aux besoins. J'écoutais justement l'émission que vous amenez hier, nos années 20, puis on parlait justement des différences de génération. Je pense qu'il y a aussi un très grand engagement des jeunes générations envers les enjeux environnementaux parce que c'est leur futur qui est en jeu ici. Mm-hmm. Donc, probablement qu'il va y avoir
les bottines les vont suivre les babines.
Oui, voilà, merci. J'ai de la misère à parler.
OK. Je veux qu'on parle des réactions à votre lettre. Vous vous êtes fait dire sur les réseaux sociaux que vous alliez rendre votre fils éco-anxieux.
Oui, en fait, j'ai vu un des commentaires là, qui est publié sur la plateforme Facebook de Québec Science, que quelqu'un disait ben vous transmettez votre éco-anxiété vers votre fils. Puis en fait, c'est pas ce que je voulais faire. Au contraire, je veux juste être très réaliste. Vous savez, moi j'œuvre dans le domaine depuis plus que 20 ans avec mes études en biologie, en doctorat en sciences environnementales. Donc c'est sûr, je n'ai un peu collé là-dessus. Donc quand on voit ça au fil des ans, on voit que les messages s'amplifient, la science devient de plus en plus claire et décisive. Et incisive, mais c'est bien, faut que je sois transparent avec mon fils pour dire ben voici la situation. Ceci dit, moi, puis c'est ce que j'essaie de transmettre dans la lettre, je vais toujours poursuivre ces efforts-là, comme bien d'autres d'ailleurs, pour pas que tu aies à tout porter sur tes épaules. Donc, mon but, c'est certainement pas de transmettre cette anxiété puis vers les épaules de mon fils, au contraire, mais bien de dire que je prends cette charge sur mes épaules puis je vais continuer de le faire jusqu'à la fin de mes jours.
Vraiment intéressant. J'invite les gens à lire ça. C'est sur le site de Québec Science. Docteur Toussaint, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Puis écoutez, salutations à votre fils.
Merci beaucoup. Merci de l'invitation.
Salut, à la prochaine. C'était Jean-Patrick Toussaint, chroniqueur chez Québec Science, docteur en sciences de l'environnement. Une lettre à son fils, c'est intéressant. Je comprends les gens qui disent, écoutez, vous allez le rendre éco-anxieux, mais dire les choses comme elles sont, c'est aussi essayer de gérer l'anxiété. Des fois, quand on sait comment ça va se passer, mais justement, peut-être qu'on est un peu moins anxieux.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.